Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Ce soir, Golgotha, épisode 4. C'est peut-être la femme la plus célèbre du monde. Elle est vénérée à peu près partout sur la planète. C'est sans doute le personnage le plus représenté dans l'art, au point que des hommes ont été assez fous pour lui ériger des statues au sommet des montagnes. Son prénom est encore aujourd'hui le premier prénom donné aux petites filles. Son utérus et son sein sont sacrés, et pour cause, elle a porté, nourri et élevé celui qui allait devenir le fils de Dieu. Cette femme, vous la connaissez, on l'appelle l'Immaculée, la Mère de Dieu, Reine du Ciel, Notre-Dame, Sainte Vierge, ou tout simplement, Marie de Nazareth. Une gamine de Palestine, femme d'un charpentier, elle n'avait rien demandé, mais son destin, lui, sera extraordinaire. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un petit focus sur cette femme hors du commun, et qu'on célèbre en ce jour de l'Assomption. Une clé de voûte dans la tradition chrétienne, comme un culte parallèle à celui de Jésus, et que les élites peinent à endiguer. Comme si le succès de Marie ne pouvait nulle part être arrêté. Si vous voulez d'ailleurs voir de la bagarre chez les chrétiens, il faut mettre un catholique, un protestant et un orthodoxe dans la même pièce, et leur demander de parler de Marie. Parce que Marie, pour les chrétiens, c'est un peu la pomme de la discorde. Les catholiques l'appellent la mère de Dieu, ce qui ne va pas du tout pour les protestants, qui s'énervent. Non, Marie, c'est la mère de Jésus, pas la mère de Dieu, faut pas pousser. D'ailleurs, il faut éviter de la prier. Pour les protestants, les catholiques sont des idolâtres, qui ne prient plus Dieu ni Jésus, mais une femme, imaginez le scandale. En réponse, les catholiques s'énervent, pas touche à Notre-Dame. Alors ils surenchérissent, Marie n'est pas morte, elle est montée au ciel, intacte. Elle est immaculée, n'a jamais connu le péché, et ce n'est pas négociable. Là, sur ça, les orthodoxes sont perplexes, et les protestants protestent, évidemment. Encore aujourd'hui, il est impossible de les mettre d'accord. Tout ça pourrait paraître anecdotique, mais ce sont des débats qui ont quand même poussé des gens à se battre, se tuer, massacrer des villages, des familles qui se sont disputées, déchirées, des hommes et des femmes qui n'ont plus pu s'aimer. Parce que Marie, pour un chrétien, c'est évidemment fondamental, c'est la mère de Jésus, la femme qui a porté en elle l'enfant de Dieu, appelé à sauver le monde. Partons donc dans un petit voyage sur les traces de cette femme extraordinaire, Marie de Nazareth, pour comprendre ce qui fait l'une des particularités de ce culte, un culte monothéiste et solaire, qui vénère aussi une femme de chair, une histoire qui commence dans un mariage juif sur les montagnes de Galilée, au tout début du 1er siècle de notre ère. Mazal Tov, bienvenue au mariage de Yosef ben Yaakov et de Myriam ben Yoyakim. Alors, c'est pas le mariage du siècle, c'est même plutôt un petit événement. Il faut le dire, ce n'est pas le premier mariage de Yosef, Joseph. Et puis Joseph, il est vieux, veuf, il avait déjà sa famille, plusieurs enfants, 6, peut-être 7. C'était un entrepreneur, charpentier, usé par le travail, sans doute même un peu rustre. Or, le célibat est très mal vu dans le judaïsme, c'est même considéré comme un signe d'impureté. C'est pourquoi les mariages étaient pour la plupart arrangés, notamment, par des marieuses qui faisaient rencontrer les célibataires. On avait donc trouvé pour Joseph une jeune femme de Palestine, Myriam, Marie, pour devenir son épouse. Marie, c'est une fille issue d'une famille sacerdotale, sa cousine Elisabeth était même mariée à un grand prêtre, c'est une aristocrate, on sait que sa mère avait des servants, que son père était très riche, Marie, c'est donc un bon parti, mais si on lui fait épouser Joseph, un homme si vieux, c'est parce que Marie est un peu bizarre. Sa famille n'a pas super bonne réputation, son père, Joachim, n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, c'est un aristocrate lui aussi, plutôt riche, mais très mystique. Il dilapide sa fortune en sacrifice au temple, il prie dans le désert, parle aux anges, il a épousé Anne, une veuve qui s'était mariée plusieurs fois, elle aussi. Aux yeux de la tradition, ce n'est donc pas signe de sainteté. Quant à la cousine de Marie, Elisabeth justement, elle n'a pas meilleure presse puisque elle aussi s'était mariée tard et avait accouché, selon ses dires, d'un prophète, le futur Jean-Baptiste. Bon, ça vous pose l'ambiance familiale, une famille particulière, des mystiques, des femmes illuminées, un peu prophétesses, un peu voyantes, faisant même peut-être un peu de magie. À cet effet, quelques heures avant son mariage, Marie avait eu une vision, un ange lui était apparu, s'adressant à elle de cette manière, « Je te salue Marie, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie avait été bouleversée, se demandant ce que ça voulait bien dire, comblée de grâce, elle qui n'était rien, ou presque. L'ange lui annonce qu'elle est enceinte et qu'elle enfantera du Fils de Dieu. Il lui dit de garder confiance. Ton fils s'appellera Jésus et il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David. Marie avait accepté le deal, sans doute parce que l'unité, l'alliance avec Dieu, Yahad, c'est ce qu'elle cherchait, comme beaucoup de mystiques juifs de l'époque, notamment les Esséniens, dont Marie et sa famille devaient être très proches. Elle donne foi dans sa vision de l'ange et répond par ses paroles, restées à la postérité tant elles marquent le commencement de toute cette histoire, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Pauvre Joseph, il pensait retrouver une femme pour combler la solitude, oublier le chagrin après le veuvage, et voilà qu'il met le doigt dans l'histoire la plus dingue depuis au moins Moïse. Alors Joseph, bon gars, va élever le fils étrange de cette femme bizarre qui se disait ne faire qu'un avec le Père, puisqu'elle était remplie du souffle de Dieu, le Saint-Esprit. Joseph n'a jamais jugé Marie pour ça, il a dû affronter l'opprobre, les moqueries, les remontrances de ses fils aussi, qui ne devaient pas beaucoup aimer cette belle-mère un peu folle, mais malgré tout ça, Joseph n'a pas répudié Marie, il ne l'a pas fait lapider non plus, ce que la tradition juive recommandait à l'époque. Non, Joseph a accueilli Marie telle qu'elle était, peut-être l'a-t-il même sincèrement aimée. Malgré tout, ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est de penser que le petit Jésus a eu une enfance juive relativement normale. Il assistait son père au travail, mais il étudiait aussi dans une yeshiva, une école juive. Jésus devait être un très bon élève. Ce qu'on sait, c'est qu'il pouvait citer la Torah et les prophètes de tête. Un jour, Jésus était à Jérusalem, il devait avoir 11 ou 12 ans, sans doute en pèlerinage avec ses parents. Il y a beaucoup de foule à Jérusalem et Jésus ne tient pas en place, il court partout. Un simple moment d'inattention et Marie perd son fils de vue. En panique, elle demande à Joseph s'il n'a pas vu Jésus. Bah non, évidemment, il devait être avec toi, Marie. Donc Joseph et Marie marchent dans tout Jérusalem à la recherche de Jésus. Ils font le chemin inverse, demandent aux passants quand l'un d'eux leur répond qu'il a vu le gamin au temple. Alors ils s'en vont jusqu'au temple et là, surprise, Jésus se trouvait là, devant une foule de gens. Il donnait un cours de Torah. Marie court vers lui, mi-colère, mi-soulagée. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Et Jésus aurait répondu, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Sympa pour Joseph, mais pour Marie aussi, l'évangile de Luc nous dit qu'elle gardait dans son cœur tous ces événements. Cette scène, c'est ce que tout parent expérimente au moins une fois, perdre son enfant dans la foule et le retrouver quelque temps après, vivre sa vie à milieu de se rendre compte du souci qu'il a créé. Au temple, Marie expérimente un avant-goût de ce qu'elle endurera plus tard, quand Jésus quittera la maison et ensuite, quand elle le verra mourir sur la croix, à l'image de toute mère, de tout parent, qui verra un jour son enfant grandir, tout en sachant qu'il est amené lui aussi à mourir. Car cet épisode parle de ce quelque chose qui fait la parentalité et donc la condition humaine. Ce don de soi, irrationnel, cette énergie, ces tracas, cette souffrance qui guette tout parent, en donnant la vie, nous savons que celle-ci doit nous échapper un jour. Tout créateur sait que sa création est vouée à disparaître. Ça, Marie le comprend au temple de Jérusalem quand, pendant quelque temps, elle perdit de vue son enfant. Sur ce, je vous passe notre première pause musicale et je vous propose Rumbling Jack Elliott avec If I Were a Carpenter, si j'étais un charpentier. Rumbling Jack Elliott, c'est un folk de cette génération extraordinaire qui a connu Bob Dylan, Pete Seeger, Dave Van Ranck, Peter, Paul and Mary, j'en passe et des meilleurs. Sa biographie servit même d'inspiration à l'hommage des frères Cohen à la musique folk, le film Inside Llewyn Davis. If I Were a Carpenter, c'est un classique du folklore américain, très populaire, et qui pourrait se résumer en cette demande, celle de Joseph à Marie, « Si j'étais un charpentier et que tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant ?»
If I were a carpenter, you were a lady. Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made? Follow close behind me. Save your love through loneliness. Save my love for sorrow. I've given you my onlyness. please give me your tomorrow. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? Were much poorer than you seem to see me. Could you ever be sure that I could really be? If I were a carpenter, you were a lady.
Je vous emmène désormais dans la petite ville de Cana, où se déroule un mariage, encore une fois, mais celui-là est bien plus important que celui de Marie, car à Cana, c'est toute la Galilée qui est invitée. On y trouve Jésus, quelques-uns de ses potes et, évidemment, sa mère, Marie. C'est en tout cas ici, à Cana, que tout a commencé. Cana est située en Galilée, sur la route entre Jérusalem et le lac de Tibériade, à peine quelques heures de marche de Nazareth, on est donc dans le bled de Jésus et Marie. Le Jourdain n'est pas très loin, le désert non plus. On sait que le jeune Jésus y passait la majeure partie de son temps. Tout le monde se moquait de lui d'ailleurs, parce qu'il fréquentait les Esséniens, des mystiques qui parlaient du retour du roi, de l'arrivée du Fils de Dieu et de la fin du monde. Les Esséniens rejettent l'autorité du temple, préférant vivre dans la nature, en pleine campagne, dans la montagne ou dans le désert, où ils y font des trucs bizarres, ils prient, ils méditent, ne mangent quasi pas, peut-être même qu'ils invoquaient des démons. Matthieu, Marc et Luc nous raconte que Jésus, dans ce désert, avait même rencontré Satan et qu'ils avaient discuté. Soit on ne sait pas qui se marie ce jour-là à Cana, mais ça devait être quelqu'un d'important en Galilée, car même les Esséniens sont conviés, sans doute un mariage de grande famille, peut-être des prêtres. En tout cas, pour Marie, c'était important d'y emmener son fils, qui n'est encore qu'un inconnu, un Tanguy de 30 ans, qui vit chez sa mère et qui n'a pas d'autre activité que de prier dans le désert et de manger des scarabées. Et vous connaissez sans doute tous cette ambiance particulière dans les mariages où ça commence à devenir long, il n'y a plus de quoi manger et en plus rien à boire, on danse depuis des heures, les troupes commencent un peu à se fatiguer, c'est le moment creux du mariage. L'instant où certains invités décident de partir un peu en douce, ce qui ne plaît jamais vraiment, mais non, restez, on s'amuse bien, disent les gens. Non, on est fatigué, on rentre, en plus il n'y a rien à boire, tout ça, on connaît. Et c'est un peu ce qu'il se passe à Cana. Le vin commençait à manquer et l'ambiance s'essoufflait. Jésus est alors silencieux, il ne parle pas beaucoup. Sa mère, Marie, dit bien fort en regardant son fils, « Il n'y a plus de vin. » Cette phrase, vous l'avez sans doute déjà entendue parce que toute mère l'a au moins dite une fois à son enfant. Cette phrase, le genre de clin d'œil gênant d'une mère à son fils, qui l'incite à faire quelque chose, à accepter comme un défi. Jésus ne bouge pas, alors Marie enfonce le clou. S'il le voulait, mon fils pourrait remplir les jarres de vin. Ce qui étonne, les convives se mettent à rire. Ben oui, bien sûr, Marie, ton fils bizarre va changer l'eau en vin, sans déconner. Jésus répond à sa mère, qu'est-ce que tu me veux, femme? Pas maintenant, mon heure n'est pas venue. Si, si, mon fils, il va changer l'eau en vin. Alors à la fois, pour plaire à sa mère et pour la faire taire, mais surtout, pour ne pas qu'elle se fasse encore prendre pour la folle du village, Jésus demande de remplir les jarres, ce qu'on fait. Maintenant, dit-il, allez les faire goûter au maître d'hôtel. Le maître d'hôtel goûte l'eau, et en effet, celle-ci s'était transformée en vin. Le maître d'hôtel court auprès des mariés, il les félicite d'avoir prévu un si bon cépage, la fête reprend de plus belle, mais ceux qui avaient vu Jésus faire cela, leur cœur fut à jamais converti. Ce miracle, c'est le premier de Jésus. Il n'avait encore rien prêché, rien accompli, il n'avait encore soigné personne, Cana, c'est en quelque sorte son coming out. Et tout ça ne se serait sans doute jamais passé si Marie n'avait pas poussé, ce jour-là, son fils à montrer qui il était vraiment. Les noces de Cana, bien plus qu'un miracle, c'est le deuxième acte d'une tragédie, celle de Marie, mais aussi celle de tous parents, car c'est ce jour-là, à Cana, que Jésus est devenu un homme, qu'il s'est émancipé de sa mère, sans pour autant vraiment se rendre compte que cette émancipation avait été rendue possible par elle, et elle uniquement. Elle a perdu son fils au temple et ça lui avait fait grand peine, mais à Cana, Marie a compris que son fils était prêt, qu'elle devait s'effacer pour lui laisser une place. Cette histoire, celle de Cana, on ne la tient que d'un seul évangile, celui de Jean, et l'évangile de Jean est pour le moins étrange. Mystique, merveilleux, apocalyptique aussi, c'est un témoignage plutôt inédit de la vie de Jésus, assez en phase avec la tradition essénienne. On sait que Jean a recueilli Marie après la mort de Jésus. Ils ont voyagé ensemble en Samarie, ils vont en Syrie, passent par l'Anatolie, puis s'arrêtent à Éphèse, où ils fondent leur église et où Jean écrira son évangile. C'est en tout cas à Éphèse que Marie est décédée, plusieurs années après son fils. Jean l'aurait vu monter au ciel le jour de l'Assomption. Et cette vision de Marie qui monte au ciel, Jean l'a aussi racontée. Après la mort de la Vierge, il se retire du monde sur l'île de Patmos en mer Égée, où il y écrit un autre document, l'Apocalypse, un autre texte très essénien. L'Apocalypse compile plusieurs de ses visions, notamment celle de Marie qui assiste au combat final entre l'archange Michel et le vieux serpent, ce même serpent qui avait tenté Ève. Un grand signe apparut dans le ciel, nous écrit Jean, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Ces mêmes étoiles qui ont donné notre drapeau européen, dans la tradition chrétienne, tous les hommes sont mortels, sauf une femme, Marie. Dieu n'a pas sauvé Jésus de la crucifixion, par contre, il a épargné à sa mère de mourir, car elle devait devenir un modèle pour tous les hommes, la preuve que la corruption du corps n'empêche pas l'immortalité de l'âme, la preuve qu'il y a au ciel des forces pour nous délivrer du serpent. De la même manière que Jean écrivait dans son Apocalypse, « Le serpent lança de l'eau de sa bouche après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve, et la terre vint en aide à la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre les descendants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » L'Assomption, ce n'est donc pas qu'un obscur congé en pleine vacances d'été, c'est le moment où Marie, en plus d'être mère de Dieu, devient reine du ciel. La survivance du Yahad essénien, cette unité avec le ciel, ce combat mystique permanent entre les anges et le serpent, qui avait tant inspiré Joachim d'abord, Anne, Élisabeth, Marie, peut-être Joseph, Jésus et enfin Jean. Ce qui nous mène à la face B de cet épisode, He Turned the Water into Wine, une chanson quasi improvisée par Johnny Cash. Alors qu'il visitait la Galilée, il se balade dans la vieille ville de Cana, puis regagne sa voiture. Il reste quelques temps devant son volant, le regard dans le vide et répétant, sans pouvoir s'arrêter, He Turned the Water into Wine, il a changé l'eau en vin. Parce que ce miracle, cette petite histoire racontée par Jean, avait été le point de départ de la vie publique de Jésus, initiée par Marie, alors que, paradoxalement, c'était la fin de son histoire à elle. Car il est du devoir de toute mère, d'un jour, laisser son fils transformer l'eau en vin, et ça implique de le perdre. À l'image de ce Dieu qui a créé le monde en acceptant de perdre sa création, en acceptant qu'un antique serpent glisse entre les anges pour y amener la destruction et la tentation. Les douleurs de Marie sont en quelque sorte les stigmates de tout ça. Johnny Cash, He Turned the Water into Wine.
He turned the water into wine. He turned the water into wine. In the little Cana town, the word went all around that he turned the water into wine. Well, he walked upon the Sea of Galilee. He walked upon the Sea of Galilee. Shouted far and wide, he calmed the raging tide and walked upon the Sea of Galilee. He turned the water into wine, didn't my Lord now? He turned the water into wine. In the little Cana town, the word went all around that he turned the water into wine. He healed the leper and the lame. He healed the leper and the lame. He said, go and tell no man, but they shouted it through the land that he healed the leper and the lame. He turned the water into wine, didn't my Lord now? He turned the water into wine. In the little Cana town, the word went all around that he turned the water into wine. He fed the hungry multitude.
Did he brought
Yes, he fed the hungry multitude. With a little bit of fish and bread, they said everyone was fed.
5,000.
He fed the hungry multitude. He turned the water into wine. He turned the water into wine. Didn't the carpenter from Nazareth in the Cana town, the word went all around. He turned.
Le 2 janvier 40, dans la colonie de César Augusta, l'actuelle Saragosse, Marie apparaît à l'apôtre Jacques. C'est la toute première apparition recensée de la Vierge, or, à ce moment, elle est encore à Éphèse avec Jean, ce qui signifie que Marie serait apparue alors qu'elle n'était pas encore morte, faisant d'elle le seul personnage de toute la Bible à être capable de bilocation, soit être présente à deux endroits en même temps. Et cette apparition sera suivie de beaucoup d'autres. En 1348, la Vierge apparaît à Béatrice, une jeune anversoise. Marie lui demande de ramener l'une de ses statues à Bruxelles, ce que Béatrice fait. Elle descend la Seine, rentre dans la chapelle du Sablon et consacre la ville à la Vierge, ce qui donnera la tradition de l'Omegang. En 1917, Marie apparaît à trois enfants du Portugal, dans la ville de Fatima. Elle revient plusieurs fois discuter avec eux, annonçant la fin de la guerre, un grand malheur pour la Russie, et la nouvelle de cette apparition fait tellement de bruit que plusieurs milliers de gens se rassemblent à Fatima, pour voir de leurs yeux la Vierge. Ce jour-là, on raconte que la foule vit une lumière resplendissante dans le ciel, puis le soleil qui se mit à danser. Plus récemment, de 1968 à 1971, à Zeytoun, en Égypte, la Vierge est apparue 27 fois, de nuit, devant des centaines de milliers de gens venus en masse assister à son apparition. Même le président Nasser en avait été témoin. On raconte que la Vierge était au sommet d'une église, silencieuse, bougeant parfois, saluant la foule ou portant un enfant. Régulièrement, des oiseaux semblaient sortir de son corps pour rejoindre le ciel. Elle reviendra d'ailleurs en Égypte, dans la ville d'Assiout, en 2000, encore devant des milliers de gens, toujours de nuit. À l'époque, le gouvernement de Moubarak avait imposé un couvre-feu dans toute la ville pour prouver que ce n'était pas un phénomène électrique. Ce qui n'a pas empêché à la Vierge d'apparaître, éclairant la nuit et encore une fois, rassemblant des dizaines de milliers de gens. En 68, comme en 2000, les musulmans et les chrétiens avaient prié ensemble devant cette apparition. Si Marie est l'objet de la discorde entre chrétiens, elle est aussi vecteur d'unité avec l'islam. De quoi rappeler d'ailleurs que Marie est davantage citée dans le Coran que dans le Nouveau Testament. Des apparitions comme ça, d'hier à aujourd'hui, vous en trouverez plein, J'aurais pu vous citer Guadeloupe, Cos, Paris, La Salette, Banneux, Lourdes, Beaurain, sans oublier la multitude de villages des Pyrénées qui ont aussi eu droit à leur petite apparition. En tout et pour tout, si on devait faire le compte, Marie est apparue plus souvent aux hommes que Jésus. C'est même un succès qui gêne beaucoup l'Église. Il y a chaque année des demandes de canonisation, de consécration, de pèlerinage, des tonnes et des tonnes de témoignages de gens qui prétendent avoir vu, touché ou parlé à la Vierge. Alors l'Église laisse faire, sans pour autant le tolérer, le clergé ne sait pas trop quoi faire du culte marial. Une chose est sûre, les hommes aiment prier Marie depuis très longtemps. On sait qu'elle fut vénérée très tôt, dès la mort de Jésus en fait. Les Actes de Luc racontent d'ailleurs que, juste après la mort de Jésus, à la Pentecôte, Marie était au milieu des apôtres, elle avait comme pris la place de Jésus. Marie est donc populaire dès la création de l'Église, elle devait même sans doute y avoir un rôle politique important. Ce qui en fait un personnage vénéré de son vivant, ce qui est plutôt rare, et qui rappelle aussi l'importance des femmes dans l'Église primitive. On pense à Marie de Magdala, Élisabeth de Béthanie, Marthe, mais il n'y a pas que les évangiles, tous ces personnages féminins ont influencé la conduite de beaucoup de femmes dans l'histoire. Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, toutes les béguines des Flandres, Thérèse d'Avila, de Lisieux, sans parler de Jeanne d'Arc, Maria Goretti, Mère Teresa, Simone Veil, et bien d'autres. La femme chrétienne n'est pas un travailleur domestique ou un être bon à marier, comme dans la tradition juive, grecque ou romaine, elle est le sanctuaire qui porte la présence divine. De la même manière que Marie avait été le sanctuaire du Fils de Dieu. Ce qui fait de la femme un acteur de la vie spirituelle, à l'égal des hommes, aucune tradition n'avait porté la femme, la féminité, la maternité à un point aussi haut dans l'échelle des valeurs. La chrétienté, c'est d'ailleurs peut-être la première religion à assumer la part de féminité dans la condition humaine. Alors certes, on priait des femmes avant Marie, les hommes n'ont pas attendu la Vierge pour prier les femmes. On pense à Sarah, Ruth, Esther pour les Juifs, Athéna, Déméter, Aphrodite pour les Grecs. Plus loin dans le temps, il y avait Isis, l'une des divinités les plus populaires de l'Égypte antique, mais aussi Bastet, Sekhmet ou Hathor, mais aucune de ces femmes n'était faite de chair, elles étaient des idéaux à atteindre, des forces de la nature, elles n'étaient pas des femmes réelles qui vivaient, sentaient, souffraient la vie. Et les traditions, orales comme écrites, parlent de cette Marie comme d'une femme qui vit, d'abord jeune fille insouciante et loyale, puis mère inquiète, qui perd son fils au temple, à Cana, puis sur la croix, grand-mère éplorée de l'humanité, mais fière de son ouvrage ensuite, enfin, reine du ciel qui terrasse le vieux serpent, Marie, c'est le visage de l'humanité sous toutes ses formes. Elle est à la fois la rigueur morale d'Athéna et celle d'Artémis, la chasseuse courageuse qui transforme celui qui découvre sa nudité en nourriture pour chien. Elle est aussi la force d'Isis qui combat le dieu de la mort pour rassembler le corps démembré de son mari, Osiris. Elle est source d'amour infini, de désir aussi, à l'image d'Aphrodite ou d'Ishtar. Elle est enfin la puissance de vie d'Ève ou de la Pachamama. Marie de Nazareth est un peu de tout ça. Une synthèse de tout ce qui avait été vénéré en une seule figure, car son histoire était d'une simplicité radicale, d'une certaine manière, elle parlait à tout le monde. Elle disait quelque chose de notre origine et de notre devenir, une vierge et un enfant, une mère et son fils, un créateur et sa création, ce besoin de donner mais qui implique la perte, bref, la condition humaine. Et c'est pourquoi tant d'icônes, de peintures ou de statues de la Vierge furent représentées, car ses œuvres répondaient à un besoin, celui des masses populaires qui voulaient vénérer un personnage qu'elles aimaient et en qui elles s'identifiaient. Davantage que Jésus ou Dieu d'ailleurs, voudriez-vous confesser toutes vos crasses à un Dieu qui fait trembler la terre et qui vous envoie la peste ? Marie, c'est la déesse mère qui vous répondait « Allez, ne pêche plus et ne le dis surtout pas à ton père. » Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Marie, tant son histoire et sa symbolique sont denses. Mais il est désormais temps pour moi de vous laisser avec le très célèbre « Mary, don't you weep » ou « Marie, ne pleure donc pas » interprété par Nat King Cole. Encore une chanson d'esclave, plus vieille que la guerre de sécession et qui rappelle la puissance d'espérance, la force de ce personnage, Marie de Nazareth. Alors Marie, non, ne pleure pas, les pharaons, on les a noyés dans les grandes eaux. Aujourd'hui, plus de la moitié de la planète connaît ton nom et rêve de te voir apparaître dans le ciel. Et ça, personne avant toi ne l'avait accompli. Non, Marie ne pleure pas. Mary, don't you weep. Et comme le disait si bien notre ami Paul, saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Alors je te salue Marie, tu es comblée de grâce. Une belle fête de l'Assomption à vous et à très bientôt.
Oh Mary, don't you weep, don't you moan. Oh Mary, don't you weep, don't you moan. Pharaoh's army got drowned. Oh Mary, don't you weep.
Oh Mary, don't you weep, don't you moan.
The way of evil doing is wide and fair, and many are they who perish there.
Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep.
There was a man who came on earth to save. Through him we stem the tide of tribulation's wave.
Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep.
Now Moses took his people by the hand and led them all to the promised land. But
Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep.
The Red Sea parted for Moses' throng, but when King Pharaoh tried to follow along, well,
a Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. So we're telling you, oh, Mary, don't you weep, don't you mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't you mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't you mourn. Oh, Mary, don't you weep, don't you mourn. Pharaoh's army got drowned. Oh,